Chapitre 3. Une soubrette compromettante. La Revanche était un magnifique navire d'un tonnage presque double de celui de l'Ariel. Édifié d'après les plans de l'ingénieur Harry Dorgan, encore amélioré par Roger Avenel et Antoine Pagano, il était muni d'une coque en nickel extra légère et de chaudières au pétrole qui lui permettaient d'atteindre une prodigieuse vitesse. Il était, en somme, construit d'après le même système que les paquebots éclairs de la compagnie fondée par Fred Jorgel et qui faisait en 4 journées la traversée de New York au Havre. Il était armé de canons de 60 mm à frein hydropneumatique du modèle le plus récent. Enfin, il possédait un tube lance-torpille. Il comptait 150 hommes d'équipage, pourvus de carabines Winchester à répétition. Fred Jorgel avait surtout tenu à ce que les matelots de la Revanche eussent servi comme soldats ou comme marins de l'État, et il avait recommandé à Édouard Edmond, spécialement chargé de l'embauchage, de recruter de préférence des hommes qui auraient déjà assisté à une guerre, comme par exemple l'expédition des îles Philippines. Malheureusement, Édouard Edmond n'avait eu aucune difficulté à concilier les recommandations du milliardaire et les ordres de la Main Rouge. La plupart des hommes qu'il avait engagés, et qui pouvaient montrer des certificats de présence au corps, appartenaient à la redoutable association. Quant au capitaine, ce n'était autre que Slug Lex Tramp, l'homme de confiance de Cornelius, l'ancien gouverneur de la garnison de l'île des Pendus. L'audacieux bandit, qui avait navigué dans sa jeunesse à bord d'un brick de pirate, avait suffisamment de connaissances nautiques pour diriger un navire. D'ailleurs, il s'était adjoint en qualité de second un loup de mer expérimenté, un fin matelot, en la présence du capitaine Christian Knox. Le vieux Forban avait fini par se décider à accepter les brillantes propositions qui lui étaient faites, et, en modifiant sa coupe de barbe et sa fut blanche de lunettes, il s'était suffisamment camouflé pour n'être pas reconnu des jeunes filles qui lui avaient vu apporter à Golden Cottage la fameuse bouteille trouvée au fond de la mer. Slug, pour arriver à ce résultat, avait présenté à Fred Jorgel des certificats de premier ordre, et Édouard Edmond avait enlevé l'affaire en déclarant qu'il le connaissait personnellement. Slug, d'ailleurs, avait complètement modifié, lui aussi, son aspect physique. Il s'était débarrassé de sa longue barbe de cheminot, pour ne conserver qu'une touffe de poils à la partie inférieure du menton, à la mode Yankee. Son visage, aux traits anguleux et rudes, sa peau tannée par le grand air et le soleil, lui donnait tout à fait les apparences d'un capitaine de marine un peu brusque, mais loyal. Sa carrure imposante se dessinait sous un superbe uniforme bleu à galons dorés, et il avait, ma foi, fort bonne mine. On voit combien avaient été terribles les conséquences de la trahison d'Édouard Edmond. Sur 150 hommes de l'équipage, 120 appartenaient à la Main Rouge. Comme Slug l'avait dit à Cornelius quelques heures avant le départ, il n'aurait qu'un geste à faire, qu'un doigt à lever pour se trouver entièrement maître du yacht. La Revanche appartenait à la Main Rouge depuis le capitaine jusqu'au chauffeur, en y comprenant même le maître d'hôtel et le cuisinier, et jusqu'à l'employé spécialement embauché qui devait faire fonctionner l'appareil de télégraphie sans fil. Édouard Edmond avait eu l'imprudence de faire engager la gitane Dorifa, sa maîtresse, comme femme de chambre au service d'André de Maubreuil, une petite Écossaise nommée Kitty, cousine éloignée de Miss Tretma Parlot, remplissant les mêmes fonctions auprès de Frédéric. L'Irlandais avait eu d'abord beaucoup de peine à décider la danseuse à remplir un pareil rôle. Puis, finalement, l'imprévu de l'aventure avait triomphé de ses hésitations. D'ailleurs, Édouard Edmond et Slug lui-même lui avaient fait de magnifiques promesses. Dorifa s'était rappelé qu'elle avait été autrefois à Grenade au service de la femme d'un corregidor, et il lui avait paru amusant de jouer de nouveau ce rôle. Sur la recommandation d'Édouard Edmond, la gitane avait tout de suite été acceptée, et cela d'autant plus aisément que toutes les filles de service auxquelles on s'était adressé avaient refusé nettement de s'engager dans une expédition aussi mystérieuse et qui ne paraissait pas sans danger. Dorifa était une comédienne admirable. Laissant de côté les toilettes tapageuses, les audacieux décolletés et l'effronté maquillage, elle avait revêtu un costume tailleur de drap noir, d'une coupe sévère, et ses beaux cheveux blonds se cachaient sous un bonnet tuyauté qui lui donnait une petite mine hypocrite et puritaine des plus réjouissantes. Trouvant le nom de Dorifa trop compromettant, la gitane s'était présentée sous celui de Mercedes. André l'avait acceptée de confiance tout en remarquant qu'elle avait l'air très délurée. « Cette Mercedes ne semble pas avoir froid aux yeux, » avait-elle dit. « De fait, » avait ajouté le naturaliste Ravenel, « elle a des yeux qui brasillent comme des charbons d'enfer sous ses grands cils de velours noir. » Mais la gitane souple, câline et prévenante, pleine d'attention pour sa maîtresse qu'elle avait prise en amitié, n'avait pas tardé à faire oublier cette première impression. Elle s'acquittait de son service avec une habileté exemplaire, et sa gaieté, son air bon enfant, l'avait rendue sympathique à tout le monde. On n'avait d'ailleurs aucun reproche à lui faire sur sa tenue et sa conduite. Et dans ce milieu d'intellectuels d'une urbanité raffinée, cette fille du ruisseau, élégante d'instinct et de race, trouvait moyen de ne pas faire tache. Dorifa, répétons-le, était une comédienne admirable. Nul ne se fût douté que cette soubrette au sourire fripon, qui apportait d'un air modeste et respectueux le chocolat ou le courrier de ces demoiselles sur un plateau d'argent, était la même effrontée drôlesse que l'on avait vu lever la jambe dans les bouges à matelots et balancer sa croupe comme une pouliche du haras de cordon. À bord de la Revanche, l'installation des passagers était luxueuse et les cabines confortables. Dès le premier jour de la traversée, André et Frédéric pensèrent que le voyage serait des plus agréables. Grâce à l'armement formidable du yacht et à la collaboration de Lord Buridan, elles regardaient la délivrance de M. Bondenat comme une chose certaine. Il leur paraissait impossible que la garnison de l'île des Pendus pût faire une résistance sérieuse, et, pour elles, l'expédition s'annonçait comme une véritable partie de plaisir. L'ingénieur Pagano, le naturaliste Ravenel et le poète Agénor n'étaient pas loin de partager cette manière de voir. Comment aurait-il eu quelque chose à redouter sur ce beau navire, si formidablement armé, qui, sous un ciel bleu, par un soleil magnifique, fuyait à toute vitesse sur les calmes surfaces de l'océan Pacifique? Rien qu'à voir les faces basanées des hommes de l'équipage, qui, dans leur uniforme neuf, avaient l'air de vieux braves, d'honnêtes héros blanchis dans les combats, ils se sentaient rassurés. « Ce sont de solides gaillards, » répétait Pagano. « Très solides, » ajoutait Agénor. « Je crois qu'on peut avoir confiance en eux à tous les points de vue, » concluait le naturaliste Ravenel. Les trois Français commettaient là une lourde erreur. Mais comment auraient-ils pu soupçonner qu'ils étaient victimes d'une pareille machination? Leur confiance était telle qu'ils s'en remettaient entièrement à l'honnête capitaine Slug, qui, admis à leur table, charmait tout le monde par ses pittoresques anecdotes, aussi bien que par son robuste appétit. Il arrivait bien quelquefois que le capitaine laissât échapper quelque expression crapuleuse, mais on mettait cela sur le compte de la rude franchise particulière aux vieux loups de mer. Un fait qui eût dû éveiller les soupçons des deux ingénieurs, c'était la taciturnité subite du capitaine, sitôt que la conversation tombait sur quelques questions techniques. Slug savait bien conduire un navire par routine, à la façon des pirates et des marchands de copra des îles de Corail, mais il se fût embrouillé tout de suite si on l'avait poussé à fond au sujet de la latitude, et il eût été parfaitement incapable, à lui tout seul, de relever le point pour établir la situation exacte du bâtiment. C'était le capitaine Knox qui se chargeait de ce soin, et lui remettait chaque jour les chiffres exacts de la longitude et de la latitude relevés sur les feuilles de son carnet. D'ailleurs, Slug n'avait manifesté aucun étonnement, et pour cause, lorsqu'une fois en dehors de la rade de San Francisco, l'ingénieur Pagano, délégué officiel de Fred Jorgel, avait donné l'ordre d'orienter le navire vers le nord. Le premier jour de la traversée, l'ingénieur commanda au télégraphiste d'entrer en communication avec le poste de San Francisco pour annoncer à Fred Jorgel et à Harry Dorgan que tout allait bien. Au bout de peu de temps, l'employé vint apporter la réponse du milliardaire, qui faisait les meilleurs vœux pour le succès de ses amis. Mais, dans la même journée, des matelots, en abaissant trop rapidement une vergue, s'y prirent avec une telle maladresse que l'énorme pièce de bois vint frapper obliquement la cabine vitrée où se trouvaient les appareils et les faussa presque tous. Les Français n'attachèrent pas une importance par trop grande à cet accident, étant donné surtout que le télégraphiste leur promit de réparer tant bien que mal le dégât, ce qui ne demanderait pas plus de 2 jours de travail. Tous avaient donc pleine confiance et nul ne soupçonnait l'orage qui s'amoncelait au-dessus de leur tête. Cependant, André avait remarqué qu'Édouard Edmond, qui, promu au grade de commissaire du bord, mangeait à une table à part avec le personnel de service, paraissait de fort mauvaise humeur. Mais la jeune fille avait attribué ce mécontentement au dérangement que lui causait le voyage, et elle n'avait pas remarqué les étranges regards, à la fois ardents et irrités, que l'Irlandais jetait à la jolie camériste espagnole chaque fois qu'elle apparaissait sur la dunette. Édouard Edmond, en effet, était furieux d'avoir entrepris ce voyage, et presque autant d'avoir amené avec lui la Dorifa. L'Espagnol, ne quittant sa maîtresse ni le jour ni la nuit, car elle occupait la cabine contiguë à celle d'André, l'Irlandais ne pouvait avoir que de rares et furtives relations avec sa maîtresse. Dorifa, qui en réalité n'était nullement éprise de lui, s'amusait de cette situation et se plaisait à le taquiner de mille façons. Quand elle passait sur le pont, à quelques pas de lui, elle avait une façon ironique de sourire qui mettait Édouard Edmond en fureur. Quelquefois, elle s'approchait de la cabine qu'il occupait, s'avançant à pas de loup et regardant avec précaution autour d'elle, puis, quand il croyait qu'elle allait y entrer, donner enfin satisfaction à ses désirs éperdus, elle s'échappait en riant, vive et légère comme une oiselle. Elle l'aguichait de mille façons. Parfois, elle lui tendait ses lèvres dans un coin sombre, puis, brusquement, se dérobait au baiser et se sauvait en criant « Mademoiselle, je vois mademoiselle qui me cherche !» Par contre, la gitane montrait toute l'amabilité possible envers le naturaliste Roger Hamel. Très expérimentée dans les choses de la passion, elle trouvait le naturaliste très bel homme. Sa physionomie intelligente et donc quichotesque, avec son nez énorme, ses petits yeux bruns et vifs et ses moustaches en bataille, était allée droit au cœur de la gitane. « Celui-là a vraiment l'air d'un homme, » songeait-elle parfois, « et je crois que je l'aimerais bien, au moins pendant 8 jours. » Elle appréciait moins à ce point de vue spécial l'ingénieur Pagano. Avec sa face rose et entièrement rasée, l'ingénieur pour elle ressemblait trop à tous ces Yankees qu'elle ne pouvait souffrir. Pour elle, un homme sans moustache n'existait pas. C'était là un principe absolu. Cependant, parmi les hommes de l'équipage, il s'en trouvait un certain nombre qui avaient eu l'occasion d'admirer la Dorifa dans ses danses capiteuses, à la bodega du vieux grillage, ou dans d'autres bouches du même genre. Elle n'avait pas tardé à être reconnue. Son nom avait volé de bouche en bouche, et maintenant, quand la gitane apparaissait sur le pont, les matelots formaient de petits groupes pour mieux la regarder, les uns ricanant bêtement, d'autres les yeux allumés de luxure. Vicieuse comme une vraie fille du diable, la Dorifa, quand elle croyait n'être pas vue, décochait aux marins des œillades moqueuses, ou parfois elle traversait lentement le pont en balançant imperceptiblement la croupe et les hanches, comme si elle eût été sur le point d'attaquer une de ces habaneras, un de ces tangos, qui faisait bondir et hurler toute une salle en folie. Quand il pouvait la pincer entre deux portes, Édouard Edmond lui adressait d'amers reproches de cette conduite. Mais elle ne faisait que rire de ses sermons et de sa colère. « Mais ils ne mourront pas. Je ne suis qu'à toi seule. Querido mio, alma de mi corazón. » Elle donnait une petite gifle sur les oreilles rouges de l'Irlandais et s'esquivait. Dès le second jour, Slug n'avait pas été sans s'apercevoir de l'influence démoralisatrice qu'exerçait la présence de la gitane. Et il avait dû plusieurs fois dissiper lui-même les groupes que formaient les marins en extase dès que paraissait l'Espagnol. Lui aussi avait voulu semoncer la Dorifa, mais la drôlesse n'en faisait jamais qu'à sa tête, et les menaces ni les promesses n'avaient aucun effet sur elle. Ce n'était pas là le plus grave sujet de préoccupation de Slug. Habitué depuis de longues années à commander aux Tramps et connaissant sur le bout du doigt la psychologie spéciale de cette sorte de gens, il s'apercevait tout à coup que cet équipage, qu'il aurait cru avoir parfaitement en main, montrait déjà des tendances à l'indiscipline. Quelques-uns des bandits restaient sur leur couchette à fumer et à boire, en jouant aux cartes, et rien ne pouvait les faire changer d'attitude. D'autres tenaient dans les coins des conciliabules mystérieux. Le premier jour même, comme on avait à peine perdu de vue la côte américaine, Slug avait été obligé de faire un exemple. Dans le poste de l'équipage, un matelot nommé Wallis, ivre à ne pas tenir sur ses jambes, l'avait insulté grossièrement, le traitant de sanglant coquin, de maudit pirate du diable et autres semblables épithètes. En toute autre circonstance, Slug aurait brûlé à bout portant la cervelle de l'insolent. Mais comme sous aucun prétexte il ne fallait éveiller les soupçons des Français, le capitaine se contenta d'assommer son insulteur d'un coup de poing. Il y eut un bruit d'os et de chair broyée, et l'homme tomba à terre le crâne fracassé, les yeux vitreux et la langue pendante. La mort avait été instantanée. « Qu'on cache cette charogne dans un coin, » ordonna Slug, « et à la nuit tombante, on le jettera à la mer. Il ne manque pas de requins dans ces parages. » Un silence de mort accueillit ces paroles. Deux hommes s'empressèrent d'emporter le cadavre de l'ivrogne. Mais Slug avait compris qu'en prenant le commandement de la revanche, il avait assumé une lourde responsabilité. En y réfléchissant, il trouva bientôt la cause de cette propension à la révolte qu'il remarquait parmi ses hommes. Il ne pouvait en accuser une autre personne que le capitaine Christian Knox, qui, depuis qu'il était à bord, où ses talents nautiques le rendaient indispensable, prenait de petits airs ironiques, montrant à Slug une déférence exagérée et gouailleuse, lui donnant 100 fois par jour le titre de capitaine sous les prétextes les plus futiles. Slug se repentit alors amèrement d'avoir embauché ce vieux pirate capable de toutes les trahisons, et qui, certainement, avait dû s'assurer à l'avance de nombreux partisans parmi les hommes de l'équipage. Il résolut de surveiller de près le vieux coquin, et de lui brûler la cervelle à la première occasion. Knox, cependant, paraissait ne se soucier en rien de la mauvaise humeur, pourtant très visible, du capitaine en titre. Il sifflotait gaiement, se promenant sur le gaillard d'avant, les mains dans les poches, le cigare à la bouche, un homme qui se sent chez lui et qui se considère comme le maître de la situation. Knox était précisément un de ceux qui, lorsque la Dorifa paraissait, lui envoyait des œillades ou s'extasiait sur sa prestance. Slug lui fit remarquer, avec beaucoup de calme, que ce n'était pas à lui de donner le mauvais exemple aux hommes. Et Knox parut accepter cette observation d'assez bonne grâce. Mais le pirate avait ses projets. Un impérieux désir le poussait vers la danseuse pour laquelle il éprouvait un de ces coups de fièvre, une de ces ardeurs de sang qui sont irrésistibles chez les tempéraments impulsifs comme le sien et comme lui, brûlés d'alcool. Ce soir-là, André de Maubreuil, qui décidément était de plus en plus satisfaite des soins de sa nouvelle camériste, lui avait fait cadeau d'une jolie bague ornée d'une opale qu'elle avait achetée lors de son passage à la Nouvelle-Orléans. André s'était tout à coup rappelé la haine qu'avait son père pour les pierres précieuses et, se repentant de son achat, elle avait donné la bague à sa fidèle Mercedes. Celle-ci, qui depuis longtemps convoitait le bijou, avait remercié sa maîtresse avec toutes les exagérations de l'emphase espagnole, lui baisant les mains et lui jurant un dévouement éternel. André de Maubreuil s'était beaucoup amusé de cette scène. Peu de temps après, se sentant fatiguée, la jeune fille était entrée dans sa cabine et, après avoir souhaité le bonsoir à Frédéric, sa voisine immédiate, elle s'était fait déshabiller par Dorifa et s'était mise au lit. Quand la gitane put se croire bien sûre que sa maîtresse dormait et qu'elle ne vit plus aucune lumière chez les autres passagers, elle se risqua, comme elle le faisait souvent, à monter sur le pont. Pieds nus, dans de mignonnes pantoufles, elle sortit du couloir des cabines sans avoir été vue de personne. Elle gagna le pont, s'assit sur un banc et, la tête renversée en arrière, les seins cambrés, presque nus sous son mince peignoir, elle se laissa aller à une voluptueuse détente de tout son être, offrant toute sa chair frissonnante à la fraîche caresse de la brise nocturne. Tout à coup, elle poussa un cri étouffé. Un homme, jusqu'alors caché derrière un rouleau de cordage, venait de bondir sur elle et, la saisissant au cou d'une main, fourrageait brutalement de l'autre les splendeurs de son corsage entrouvert. À 10 mètres de là, les hommes de quart, évidemment complices, tournaient le dos et sifflotaient en faisant mine de ne rien voir. « Si tu cries, je t'étrangle !» murmura d'une voix rauque le capitaine Knox à l'oreille de la gitane. Comme elle n'essayait pas de se dégager, il continua. « Viens dans ma cabine, je te donnerai $10 !» Dorifa ne répondait toujours pas. « En veux-tu 20, tu les auras. Je te veux et tu seras à moi. » Il avait quelque peu desserré son étreinte, mais, brusquement, la gitane se redressa comme un arc dont on a brisé la corde, et le capitaine Christian Knox ressentit au bras une douleur aiguë. Pendant les quelques secondes où il l'avait cru immobile, consentante peut-être, la Dorifa avait sournoisement cherché le stylet toujours attaché à sa jarretière. Et maintenant, ricanante et moqueuse, ne se donnant même pas la peine d'appeler au secours, elle lui tenait tête, le lardant de la pointe aiguë de son arme à petits coups. Le capitaine écumait de rage. « Maudite gueuse ! » râla-t-il. « J'ai envie de te crever la peau !» Tout en battant en retraite devant la gitane, il cherchait son couteau. Mais au moment où, l'ayant enfin trouvé, il s'apprêtait à l'ouvrir, il se sentit rudement empoigné au collet. Et Dorifa profita aussitôt de cette intervention inattendue pour le désarmer en s'emparant du couteau, non sans avoir fait prestement disparaître son stylet dans son corsage. Exaspéré jusqu'à la fureur, Knox se rua sur ce nouvel adversaire dans lequel, à la clarté de la lune, il reconnut Roger Ravenel. Mais il avait affaire à forte partie. Le naturaliste, sportsman émérite, était de première force à la boxe. Avant d'avoir pu se rendre compte de ce qui lui arrivait, Knox reçut sur la mâchoire un coup qui faillit lui couper la langue et lui fit sauter 2 dents. Il roula à terre en crachant le sang et en jurant comme un possédé. Les hommes de quart s'avançaient, mais presque en même temps qu'eux, Slug parla et, tout bouleversé de cette scène dont il redoutait les conséquences, demanda ce qui s'était passé. Roger Ravenel le mit au courant en peu de mots. Slug exprima la plus véhémente indignation et, avec une courtoisie qui eût été parfaitement grotesque en toute autre circonstance. « Si je ne craignais de réveiller ces dames à une heure pareille, je brûlerais la cervelle de ce coquin à l'instant même. Mais soyez tranquille, monsieur Ravenel, il va être mis au fer. Allons, Splinter, Colback, empoignez-moi ce gaillard-là, désarmez-le et descendez-le à fond de cale dans les locaux disciplinaires. » Splinter et Colback, 2 anciens pensionnaires de l'île des Pendus, étaient des hommes dévoués sur qui Slug pouvait compter absolument. En un clin d'œil, Christian Knox, malgré ses hurlements et ses coups de pied, fut solidement ligoté et emporté. Slug prit congé du naturaliste en le priant de garder le silence sur ce petit drame, afin de ne point causer de scandale, et en lui affirmant d'un air digne qu'il veillerait à ce qu'un aussi regrettable incident ne se reproduisît plus. Dorifa avait assisté à toute cette scène dans une pose indolente, nullement émue et plutôt amusée de la succession des péripéties. Mais quand elle se retrouva seule avec Roger Avenel, sa physionomie prit une expression apeurée et douloureuse. « Vous n'avez pas été blessée, mademoiselle ?» demanda le naturaliste avec sollicitude. « Non, » murmura la gitane d'une voix très douce, en portant la main à son cœur comme pour en comprimer les battements. « J'ai eu très peur. Oh, Sainte Vierge, il me semble que je vais me trouver mal. » Elle étendit les mains, chancela, et vint s'abattre dans les bras de Roger Avenel, qui s'était avancé pour la soutenir. En même temps, comme si dans son égarement elle n'eût plus su ce qu'elle faisait, elle avait pris le naturaliste par le cou. Sa joue s'appuyait contre sa joue, et le jeune homme sentait tout contre lui ce beau corps tiède et frémissant, presque nu sous l'étoffe légère. Roger Avenel perdait la tête. Une étrange émotion l'envahissait, et pour retenir la gitane toujours prête à tomber, il fut obligé de la prendre par la taille. Elle en profita pour nouer plus étroitement ses bras autour de son cou. Leurs lèvres se rencontrèrent, et le jeune homme ressentit la brûlure délicieuse d'un baiser. Le naturaliste, faisant violence au désir fou dont il était consumé, avait reculé sa bouche loin de celle de la sirène. Puis il la déposa sur le banc et relâcha doucement l'étreinte de ses beaux bras frais qui l'enlaçaient. Déjà, la gitane ouvrait les yeux en souriant avec un soupir qui n'avait rien de douloureux. « Je vous demande mille pardons, monsieur Avenel, » dit-elle avec un sourire délicieux. « Mais je crois que je viens d'avoir un étourdissement. Ce ne sera rien, je vais déjà mieux. »« Vous n'avez plus besoin de mes soins ? » demanda-t-il poliment. « Merci, » fit-elle railleuse, « ce sera pour une autre fois. « Je vais très bien. Bonsoir, monsieur Avenel. » Le naturaliste regagna sa cabine, à la fois mécontent et charmé de cette aventure. Mais ni Dorifa ni lui n'avaient aperçu la face haineuse de l'Irlandais Édouard Edmond qui, tapi dans l'ombre du couloir, avait été témoin de toute cette scène. Il attendit la nuit et se mit aux aguets, épiant la gitane qui, souvent, ses maîtres couchés, son service fini, montait sur le pont pour respirer la fraîcheur de la brise.